Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut. Salut à toutes et à tous. Io, c'est la lune galiléenne la plus proche de Jupiter. Elle exécute une orbite autour de la planète géante toutes les 42h30. Son diamètre est de 3643 km et sa densité de 3528 kg par mètre cube, ce qui la rend environ 5% plus grande en diamètre et en densité que la Lune. En raison de l'orbite excentrique de Io, sa distance par rapport à Jupiter varie d'environ 3500 km, ce qui entraîne des variations très importantes de l'attraction gravitationnelle de Jupiter. À l'instar des marées sur la Lune provoquées par la Terre, ces variations gravitationnelles, ces effets de marée, entraînent des déformations sur Io, qui serait la principale source d'énergie de l'intense activité volcanique et des émissions infrarouges qui sont observées à sa surface. La quantité d'énergie dissipée à l'intérieur de Io est immense, hein, avec une puissance totale de l'ordre de 100 TWh. Alors depuis des décennies, on suppose que ce réchauffement extrême dû aux marées pourrait être suffisant pour faire fondre une fraction substantielle de l'intérieur de Io, formant vraisemblablement un océan de magma souterrain global. On pense d'ailleurs que de nombreux mondes ont possédé des océans de magma au début de leur évolution, notamment la Lune, primitive, dont on pense qu'elle a eu un océan de magma peu profond au cours des 100 premiers millénaires et causé par l'impact géant qui lui a donné naissance. Le volcanisme extrême d'Io suggère fortement l'existence d'un intérieur au moins partiellement en fusion. Mais la question de savoir si l'intérieur de Io contient ou non un océan de magma global peu profond est restée en suspens depuis la découverte du volcanisme de Io. Il existe en fait deux modèles pour l'intérieur de Io. Un intérieur partiellement fondu mais principalement solide, ou bien un intérieur avec un océan magmatique global. Un noyau métallique avait également été indiqué par des mesures gravitationnelles il y a quelques années, et serait dans ce cas probablement liquide. L'existence d'un océan magmatique global a été prédite grâce à deux types d'analyses. La première repose sur des mesures d'induction magnétique par la mission Galileo, et qui ont suggéré l'existence d'un océan de magma à l'intérieur de Io, avec l'hypothèse d'une couche superficielle proche d'environ 50 km d'épaisseur, avec plus de 20% de matière fondue, hein, bien que les résultats aient fait l'objet d'un débat substantiel. Et puis, récemment, la cartographie globale des volcans de Io, qui a été effectuée par la sonde Juno, a été utilisée pour montrer que la distribution du flux de chaleur volcanique, eh bien, elle est cohérente avec la présence d'un océan magmatique global. Alors, pour tenter de trancher la question, Ryan Park du Jet Propulsion Laboratory de la NASA et ses collaborateurs qui exploitent la sonde Juno ont décidé d'utiliser une nouvelle méthode fondée sur la mesure de la réponse de Io aux effets de marée, donc sa déformabilité. Il s'agit d'un diagnostic clé pour distinguer si Io a un océan magmatique global ou un océan magmatique peu profond. Si Io a un océan de magma, la réponse de marée doit être grande, et inversement, elle doit être petite s'il ne possède pas d'océan de magma. La réponse de marée de Io peut être quantifiée par un nombre complexe qu'on appelle le nombre de Love gravitationnel, qu'on note K2, et donc qui est égal à la partie réelle de K2, plus I fois la partie imaginaire de K2. La composante réelle, donc RE de K2, caractérise la réponse en phase, qui est définie comme le rapport entre le potentiel gravitationnel imposé par Jupiter et le potentiel induit par la déformation de Io. Et la partie imaginaire de la réponse de marée, donc im de K2, est souvent défini comme la norme de K2 divisée par Q, où Q, c'est le facteur de qualité de la dissipation, et c'est une mesure de la quantité de chaleur que Yo devrait générer. Des études antérieures ont utilisé des mesures astrométriques pour déterminer K2 sur Q, mais donc la norme de K2 sur Q, mais on n'a pas pu déterminer la partie réelle de K2 indépendamment. Alors la méthode de Park et ses collaborateurs repose sur la mesure très précise du mouvement de la sonde Juno qui explore le système jovien depuis la mi-2016 lors de ses survols rapprochés de Io. Ce faisant, on peut déterminer le champ de gravité d'un corps perturbateur. En juin 2024, Juno avait effectué un total de 62 orbites autour de Jupiter et les données acquises au cours de cette période ont été utilisées pour améliorer la compréhension de l'environnement dynamique de Jupiter, en particulier les orbites des satellites galiléens, ainsi que le champ de gravité et l'orientation de Jupiter. Les deux survols de Io sont dénommés I-57 et I-58 et ont eu lieu respectivement le 30 décembre 2023 et le 3 février 2024. I-57 a notamment fourni une occasion unique d'acquérir les données de gravité pour l'hémisphère nord d'Io. Les deux survols ont eu lieu à des altitudes d'environ 1500 km et ont fourni des données Doppler de proximité avec une précision 10 fois plus grande que celle des données Doppler qu'avait obtenue la sonde Galileo. Park et ses collaborateurs ont combiné les données de Juno avec les données précédemment acquises de Galileo ainsi que les observations astrométriques. Et ils ont ainsi pu déterminer la partie réelle de K2, qui vaut 0,125 plus ou moins 0,047, et aussi la valeur de grand Q, qui vaut 11,4 plus ou moins 3,6, ce qui donne une valeur de la partie imaginaire de K2, donc la norme de K2 sur Q, qui est égale à 0,0109 plus ou moins 0,054. Sans océan magmatique, la partie réelle de K2 peut être aussi petit qu'environ 0,1. Et avec un océan magmatique, par contre, la partie réelle de K2 n'est jamais inférieure à 0,8, lorsque la hauteur de la couche liquide est de 50 km, parce que l'effet de découplage de la couche liquide conduit à une plus grande réponse de la marée. Ces résultats fournissent donc des preuves solides démontrant qu'il n'existe pas d'océan magmatique souterrain global peu profond capable d'être la source de l'activité volcanique de Io. Un manteau supérieur viscoélastique plus épais recouvrant l'océan magmatique réduira la déformation de la surface. Les chercheurs montrent qu'un manteau supérieur de 250 km d'épaisseur réduit la partie réelle de K2, mais pas suffisamment pour satisfaire les mesures de Juno. Et cependant, un manteau supérieur d'une épaisseur d'environ 500 km peut reproduire à la fois les valeurs de la partie réelle de K2 et K2 sur Q mesurées. Dans le cas d'un océan magmatique sous un manteau viscoélastique, le résultat montre que l'épaisseur du manteau doit être dans tous les cas supérieure à 318 km. Alors les résultats de Juno n'excluent donc pas la possibilité d'un océan magmatique profond qui existerait à une profondeur supérieure à 318 km. Mais un océan magmatique profond ne pourrait pas être la source de l'activité volcanique d'Io. Les chercheurs notent qu'un océan magmatique très mince, inférieur à 2 km, et peu profond, pourrait aussi produire une petite valeur de la partie réelle de K2, compatible avec les observations. Mais Park et ses collaborateurs rappellent que la topographie de surface de Io à des amplitudes d'environ 1 km, et que les variations isostatiques devraient résulter en une topographie basale d'au moins quelques kilomètres, dépendant du contraste de densité. Et dans ce cas, pour un océan magmatique très fin, l'océan magmatique ne serait plus global. Les chercheurs ont conclu donc qu'un océan magmatique global et peu profond est exclu par les résultats de Juno. Alors, comme on s'attend à ce qu'un océan magmatique global profond découple mécaniquement la croûte, Park et ses collaborateurs ont aussi étudié la possibilité de mesurer les librations diurnes de la surface pour fournir des contraintes supplémentaires. Leur analyse montre que les distributions de probabilité a posteriori des amplitudes de libration, pour les cas avec et sans océan magmatique, se chevauchent de manière significative. Pour un scénario sans océan magmatique, l'amplitude de libration varie de 250 à 268 mètres. Et pour le scénario avec océan magmatique, l'amplitude de libration pourrait être plus importante, allant de 261 à 317 mètres. Les résultats de Park et ses collaborateurs indiquent donc qu'il n'existe pas d'océan magmatique global peu profond sur Io. Alors sur Terre, les matières fondues profondes peuvent être plus denses que le manteau environnant et restent donc séquestrées dans un océan de magma basal. Mais sur Io, en revanche, les pressions sont beaucoup plus faibles, de sorte que l'on s'attend à ce que la fonte du manteau soit toujours moins dense que le manteau solide qui l'entoure. Le magma aura donc tendance à remonter, rendant le maintien d'un océan magmatique profond dynamiquement problématique. Inversement, si les masses fondues sont denses, par exemple si elles sont suffisamment riches en fer, avec un océan magmatique profond, il serait difficile d'expliquer comment une telle masse fondue pourrait remonter et entrer en éruption. Alors ces considérations font dire à Park et son équipe que le volcanisme qui est observé à la surface d'Io ne proviendrait pas d'un océan magmatique global. Bien qu'on ne puisse pas exclure totalement l'existence d'un manteau hétérogène dans lequel se trouvent à la fois des matières fondues denses et profondes, et des magmas éruptifs flottants, aucune observation actuelle ne confirme l'existence d'une couche de matière fondue profonde. Alors comment la Lune primitive a-t-elle pu conserver un océan de magma peu profond pendant une période relativement longue, alors que Io, qui est continuellement chauffé par les marées, ne le fait pas? Selon Park et ses collaborateurs, il y a deux possibilités. Premièrement, l'absence relative de volatiles sur la Lune pour alimenter les éruptions. Et deuxièmement, la présence d'une croûte anorthositique de faible densité qui empêche la migration de la matière en fusion vers le haut et l'éruption. L'océan magmatique de la Lune a été formé par un impact géant, mais en l'absence d'un tel événement catastrophique, le chauffage par les marées seul semble insuffisant pour permettre à un tel océan de magma de se développer sur Io. Alors bien sûr, il est important de comprendre le chauffage par les marées en tant que cause principale des océans dans notre système solaire, tels que ceux sur Europe et Encelade par exemple, et potentiellement au-delà. Bien que les planétologues supposent généralement qu'un chauffage intense dû aux marées peut conduire à des océans de magma, l'exemple de Io montre que ce n'est pas nécessairement le cas. Les arguments qui impliquent, par exemple, que Vesta ou d'autres astéroïdes très précocement créés ont formé des océans de magma à partir du chauffage par désintégration radioactive de l'aluminium 26 doivent également être réexaminés, selon les chercheurs. La migration rapide de la matière fondue et l'éruption peuvent entraver le développement des océans de magma, à moins qu'il n'existe une barrière au mouvement ascendant. De telles barrières existaient probablement sur la Lune primitive, ainsi que sur les satellites glacés, où la masse fondue, c'est-à-dire l'eau, est plus dense que la croûte, c'est-à-dire la glace, et où les océans sont fréquents. Alors, pour résumer les résultats de cette étude, ni le volcanisme silicaté superficiel intense qui est observé sur Io, ni son chauffage extrême par les marées de Jupiter n'implique un océan magmatique peu profond sur Io, comme on pouvait s'y attendre. Alors, le 24 novembre 2024, la sonde Juno a effectué son 66e survol des sommets nuageux de Jupiter. Sa prochaine approche de la géante gazeuse aura lieu le 27 décembre. La sonde s'approchera alors à environ 3500 km au-dessus des nuages de Jupiter et aura parcouru 1,039 milliards de kilomètres depuis son entrée dans l'orbite de la géante gazeuse en 2016. Quant à Io, les profondeurs du corps le plus volcanique du système solaire continueront à n'en pas douter à être sondées à partir d'autres mesures, telles que l'obliquité, la précession, la nutation et le champ de gravité à haute résolution. L'article de Ryan Park et ses collaborateurs est paru dans Nature le 12 décembre 2024. Il porte le titre « La réponse de marée de Io exclut un océan de magma peu profond ». Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et restez bien les yeux vers Jupiter, hein, que vous pouvez voir toute la nuit en ce moment. Et donc, restez bien les pieds sur Terre. Hein. Allez, salut!